1901, place aux associations.
Et sur 1901, aujourd'hui, Marie-Pierre Barrière, responsable et militante de RESF. Elle va nous en dire un peu plus. Bonjour.
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 Donc oui, nous recevons aujourd'hui Marie-Pierre Barrière, qui est militante RESF, donc Réseau Éducation Sans Frontières, qui est un réseau national. Est-ce que vous pouvez nous présenter déjà l'association dans ses grandes lignes et ses objectifs ? Alors, on devine en fait, un peu rien que l'intitulé, mais...
Oui, alors le Réseau Éducation Sans Frontières a été créé en 2004. Donc il a eu 20 ans l'an dernier, et son objet c'était de protéger les enfants scolarisés de familles étrangères menacées d'expulsion pour qu'il n'y ait pas de rupture de scolarité. Donc c'est un réseau qui est complètement informel, qui a été créé en fait par des associations, des syndicats, des partis politiques qui se sont retrouvés à la Bourse du Travail un beau matin de juin 2004, et qui ont décidé pour lutter contre ce qu'on sentait déjà monter dans les orientations politiques, c'est-à-dire un durcissement de la politique migratoire, ont décidé donc de se mettre ensemble pour protéger ces enfants et ces familles. Et donc le réseau se crée dès que besoin dans une ville ou sur un territoire où il y a un besoin de protection d'une famille ou de recours à l'opinion publique, on dirait, pour protéger et mobiliser autour d'un cas.
Mais on entend quand même régulièrement des situations comme ça où les associations portent dans les médias la situation de jeunes qu'on veut expulser, où la famille et les gamins sont à l'école et après on veut les expulser dans un pays étranger alors qu'ils sont quasiment... depuis petit en France et scolarisé en France.
Donc c'est vrai que la situation profondément révoltante de ces familles ont suscité à l'époque du soutien, et aujourd'hui on ne peut pas dire que la situation s'est beaucoup améliorée, et de nombreuses associations et de nombreux collectifs ont imité en quelque sorte le réseau Éducation Sans Frontières, qui maintenant est constitué de beaucoup de personnes qui ont un certain âge,
comme beaucoup d'associations.
Les fondateurs prennent de l'âge, mais de nombreuses associations militantes ont pris la relève et le relais, et c'est vrai que le réseau Éducation Sans Frontières est amené à travailler en partenariat avec énormément...
Avec beaucoup d'autres associations, j'ai vu.
C'est ça.
Oui. Oui, parce qu'en fait, ça mobilise quand même l'opinion publique, enfin une frange de l'opinion publique qui est favorable au maintien de ces jeunes en France. Et clairement, à chaque fois, on entend dans les médias tel enfant, les profs qui les défendent, les familles. On a beaucoup aussi dans RESF, il y avait pas mal de syndicats d'enseignants au
c'est
départ,
ça,
hein, et parents d'élèves qui s'étaient mobilisés.
Oui.
Mmh.
Et de fait, le réseau Éducation Sans Frontières continue à avoir des adresses et des contacts en France entière, dans chaque département. On a un site internet qui permet justement, dans le cas d'une situation préoccupante, de contacter quelqu'un, d'accéder à une permanence de défense de droit ou d'étude de la situation. Et donc, ce sont vraiment des bénévoles qui œuvrent de façon désintéressée et vraiment purement altruiste partout en France pour justement que l'humanisme continue
perdure,
à perdurer.
Ce qui n'est pas forcément dans l'air du temps. Alors, pour revenir sur le site, effectivement, je voulais en parler de toute façon lors de l'émission. Votre site est très complet, il y a les textes officiels, il y a effectivement tout le réseau français, donc ça permet aux gens de bien situer, il y a toutes les antennes par département. Vous avez des exemples de pétitions aussi, il y a pas mal de choses sur le site des RSF.
Oui, des
Quand
outils
on fera
de
le podcast sur Radio Mono, on mettra les contacts, dont le site internet, parce qu'il est assez riche. Hein. Et pour en revenir à ces enfants, donc là vous êtes sur Chalon, vous êtes nombreux sur le réseau sur Chalon ?
Alors en fait, c'est difficile à dire parce que
c'est pas très structuré.
Ouais,
en
c'est
fait.
Pas du tout. Enfin, voilà. Alors nous, on a quand même créé une association en 2013 Parce que le réseau n'est pas une association, en fait. C'est vraiment un condensé de bonne volonté, on va dire, et d'associations, de mouvements, comme vous l'avez dit, des fédérations de parents d'élèves, syndicats, etc.
Mais RSF en soi n'est pas une association ?
Non, il n'y a pas de structure administrative officielle.
C'est
en
pas porté, il n'y a pas d'association porteuse.
Non, il n'y a pas. Voilà, c'est pas comme la Ligue des droits de l'homme
Grève, ou des choses comme ça.
Nous, on a tenu quand même à créer une association sur Chalon en 2013 parce que on avait besoin en fait de pouvoir délivrer des reçus fiscaux, enfin avoir une structure capable de nous fournir un compte bancaire, enfin voilà. Donc on a créé une association, mais qui est très l'adhésion est à 1 euro, c'est vraiment pas une structure très très lourde. Et de fait, quand on a besoin de mobiliser, c'est pas toujours nos adhérents qui réagissent les premiers, parce que en fait on a beaucoup de sympathisants, donc on a une liste de mailing très très vaste. Et donc quand on fait des appels, aussi bien des
pour l'hébergement par exemple,
voilà, pour l'hébergement, pour
une manifestation,
vélos, pour des manifestations, pour quoi que ce soit, n'importe quel besoin en fait, les jeunes qui vont avoir besoin de prendre des vacances, des personnes qui répondent sans pour autant être se dire membre de l'association. Donc c'est difficile d'évaluer en fait les manière
adhérents.
Comptable.
Bon, en tout cas, il y a des sympathisants et vous arrivez toujours.
Oui.
Alors concrètement, par exemple sur Chalon, il y a des mineurs isolés.
Alors oui, notre public à l'heure actuelle, on a été amené à se répartir un petit peu la charge d'accompagnement avec le Secours catholique qui depuis quelques années, 6-7 ans, va prendre plus en charge l'accompagnement des familles de personnes migrantes. Et nous, on est vraiment ciblés sur les mineurs non accompagnés et jeunes majeurs sortant d'ASE, parce que y a d'énormes besoins et que c'est spécifique. Donc on a comme ça, on a été amené à se spécialiser entre guillemets, bien que on puisse toujours.
Parce que les mineurs isolés souvent n'ont pas de papier, bien sûr.
Alors donc je vais vous expliquer un petit peu comment
pour
ça se passe.
Les auditeurs, auditrices, oui.
Alors en fait un mineur qui arrive sur le territoire français, donc une personne qui se dit mineur relève normalement de l'aide sociale à l'enfance. Il y a un premier sujet, un premier nœud de blocage qui est la reconnaissance de la minorité.
Oui, avec des tests osseux.
C'est ça, Donc les jeunes passent un certain nombre d'entretiens, font des examens, etc. pour pouvoir prouver leur minorité.
Les entretiens, excusez-moi, ça se passe où et devant qui ?
C'est l'ASE qui.
D'accord. C'est l'association de.
Mais c'est contrôlé par la préfecture aussi.
Non, le département.
Le département, je reste la préfecture. D'accord. C'est le département qui demande.
C'est le département qui est en charge de la protection de l'enfance.
D'accord.
Qui gère ce protocole de.
Qui est en charge cette compétence, quoi.
Voilà, le protocole d'accès, d'admission.
Reconnaissance de la minorité.
Voilà, à l'assistance éducative, pour les jeunes. Et donc, là, il y a déjà une première zone un peu complexe, puisque certains jeunes ne sont pas reconnus mineurs. Et donc, ils nous contactent et on peut faire des recours auprès du juge des enfants pour que le juge des enfants réexamine leur situation au regard de nouveaux documents, par exemple d'état civil ou de nouvelles informations que le jeune peut apporter. Donc ça c'est un.
Et pendant ce temps-là, ils sont où ?
C'est dans la rue.
Oui, c'est ça, c'est ça.
Parce que alors c'est ça, c'est le sujet des mineurs dont on a vu à Paris l'occupation de la gaieté lyrique. Ce sont des jeunes effectivement qui sont en recours et qui pendant la durée de leur recours
ne sont pas hébergés, pas pris en charge. Donc c'est terrible parce que si ça dure un certain temps.
Et ça dure. Bien sûr, ça peut durer. Là, par exemple, on a saisi le juge d'enfants en février pour un jeune qui n'a toujours pas été convoqué.
Février, on est au mois de mai. Voilà. Enfin, au mois de juin, pardon.
Donc, ça veut dire que dans l'espace, il faut quand même suivre. On ne peut pas laisser le jeune à livrer à lui-même. C'est très compliqué, quoi.
Donc, parmi vous hébergez. Il y en a qui hébergent des jeunes.
Mais sur le territoire chalonnais, est-ce qu'il y a des spécificités par rapport à l'ensemble du territoire national ? Est-ce que vous en avez plus ou moins de.
Alors, on en avait beaucoup.
En situation difficile.
Il y en a beaucoup qui arrivent à Chalon.
On en avait beaucoup.
Oui.
Et
est-ce qu'il y a des faits générateurs justement
depuis le Covid en fait on est très très peu sollicité par les mineurs parce qu'ils s'en vont. En fait, le département de la Marne n'est pas très attractif, on va dire. Enfin, bon, même si c'est vraiment, enfin, c'est un euphémisme parce que je peux pas, voilà.
Mais vous parlez en termes d'employabilité ou de
d'accueil.
Ouais. Donc, puis tout simplement les parce que je vais pouvoir ensuite aborder le problème des régularisations à la majorité, et la préfecture, bon, est très dure ici. Enfin, avait cette, en tout cas, c'est
okay. Il y a bien des particularismes. Quoi.
Et donc, oui, les jeunes ont tendance à partir.
Ailleurs, où c'est plus
alors,
tolérant.
Bah, oui.
Ou plus accueillant.
C'est ça. Et paradoxalement, il y a une. Depuis quelques années, il y a la mise en place d'un fichier national avec une prise d'empreinte en préfecture pour les jeunes, pour que justement éviter ce tourisme entre migratoire, parce qu'on l'a appelé comme ça. Et donc ce fichier, donc qui est en place depuis deux ans, doit normalement éviter de générer, enfin de permettre ce déplacement en fait des jeunes d'un département à l'autre. Mais nous, ça n'a pas du tout. Enfin, on s'était dit que ça allait augmenter le nombre de sollicitations, et en fait, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Donc, on ne sait pas en fait où partent les jeunes qui disparaissent des radars, et c'est aussi quelque chose d'inquiétant.
C'est très inquiétant parce que ça peut être une façon. Ils peuvent être happés par d'autres groupes, des choses un peu moins sympathiques, mais en même temps, il faut bien qu'ils vivent et qu'ils mangent.
C'est
donc
ça, c'est exactement les questions que nous, on se pose par rapport à ces jeunes qui disparaissent en fait dans la nature, et on ne sait pas trop où ils partent. C'est vrai qu'on a eu, au tout début de l'arrivée de ces jeunes dans les années 2010, mi-2010 jusqu'à 2020, donc jusqu'au Covid, énormément de sollicitations. On était appelés parfois plusieurs fois par semaine pour ces situations de jeunes qui étaient évalués majeurs alors qu'ils se disaient mineurs. Et maintenant, c'est très
donc
rare.
Ils peuvent être pris par d'autres réseaux qui sont peut-être moins porteurs pour eux.
Oui,
enfin,
tout à
long
fait,
terme,
oui.
J'entends.
Oui,
bien sûr. À court terme, c'est
et
peut-être
pour
porteur.
Et pour l'ordre public aussi. Quoi.
Bah, oui.
Et la sécurité nationale. Enfin, bon,
Et moi, je voulais revenir sur les mineurs. Enfin, venir sur les mineurs, puisqu'en fait, quand l'ASE les prend en charge, donc s'ils sont déclarés mineurs, donc ils sont scolarisés.
Alors,
le problème est qu'à la majorité, ils ne sont plus pris en charge par l'ASE.
Alors là encore,
il
y a des nuances et des évolutions, puisque depuis la loi Taquet de l'année dernière, l'ASE est contrainte de poursuivre l'accompagnement au-delà de la majorité.
D'accord.
Donc on a quand même plus de contrats jeunes majeurs.
D'accord. Oui.
Donc ce qui est quand même quelque chose de
mais
positif.
Mais donc ils sont
parce
toujours suivis par l'ASE.
Voilà, le contrat jeune majeur, en fait, c'est un contrat que signe le jeune à ses 18 ans. Pour pouvoir poursuivre l'accompagnement jusqu'à ce qu'il soit autonome. Bon, il se trouve que ça, c'est vraiment
une mesure
positive.
Donc, ils ont de
l'argent,
un peu. Le contrat jeune majeur peut financer des choses.
Bah, disons que... Alors, il y a une possibilité d'accompagnement purement social et éducatif, puisque le jeune peut être en apprentissage.
Oui, s'il est en apprentissage, voilà. Mais s'il ne l'est pas,
mais s'il ne l'est pas, alors effectivement, il a de l'argent, mais...
Très peu.
En fait, le problème, c'est que à 18 ans, vous savez, normalement, ils ont besoin d'un titre de séjour.
Oui.
Donc, l'ASE continue à accompagner jusqu'à l'obtention du titre de séjour. C'est-à-dire qu'il faut quand même monter un dossier administratif qui est quand même difficile à réaliser. Donc, c'est bien qu'il y ait des travailleurs sociaux qui puissent accompagner le jeune dans sa demande. Mais le problème, c'est que la préfecture refuse très souvent ces demandes et met des obligations de quitter le territoire à des jeunes qui sont...
des OQTF.
Voilà. Et si le jeune... Effectivement, si le jeune n'est pas en formation au moment de sa demande, c'est extrêmement compliqué d'obtenir une régularisation. C'est sûr qu'il va forcément vers une obligation de quitter le territoire parce qu'il ne remplit pas le critère
formation
de la loi, enfin exigé par la loi, qui demande 6 mois de formation professionnelle.
Parce que la loi, je la connaissais pas, la loi Taquet, mais avant ces jeunes-là, par exemple, on essayait surtout de les mettre dans des CAP, c'est-à-dire des circuits courts.
C'est toujours le cas.
C'est toujours le cas. Mmh. Et c'est un peu dommage parce que certains auraient pu faire d'autres études. Mais
alors oui, c'est aussi pour ça que j'ai créé une autre association qui s'appelle EOL, parce qu'effectivement, on a détecté au contact de ces jeunes. Qu'il y avait un problème, vraiment un problème réel d'accès aux études supérieures notamment. Pour cette raison que je viens d'évoquer, c'est-à-dire la loi, le CESEDA, le code lié à la régularisation des étrangers, en fait, demande que le jeune dispose, enfin, puisse justifier de 6 mois de formation professionnelle au moment de sa demande de régularisation, ce qui oblige les jeunes à choisir des filières courtes et professionnelles. Donc c'est vrai que l'ASE a tendance à les orienter, et voilà, à juste titre on pourrait dire, au regard de la loi, vers des formations professionnelles. De type CAP.
Parce que c'est court et qu'en plus après ils peuvent trouver un travail rapidement.
Oui, et devenir très rapidement autonome. Donc ce qui a fonctionné et ce qui fonctionne pour un certain nombre de jeunes. Mais il y a un double problème. Alors le premier, c'est que l'éducation nationale à l'heure actuelle ne dispose plus de suffisamment de places en formation de type CAP. Donc il y a énormément de jeunes qui ne sont pas scolarisés. Et elle a décidé, l'éducation nationale a décidé qu'à partir qu'un jeune atteignant les 17 ans, c'est-à-dire qui ne justifie plus d'une obligation scolaire jusqu'à 16 ans, ne serait plus
scolarisé. Pour les étrangers, avant, c'était jusqu'à 18 ans.
Oui, mais bon, voilà.
Il reste pour autant l'apprentissage.
Oui, attends, alors justement,
non,
c'est un peu
le... Je voulais quand même terminer sur ça, parce qu'avant, on disait, s'ils ont 18 ans, pour les étrangers, l'obligation scolaire en France, c'est 16 ans. Mais pour les étrangers, les primo-arrivants, etc., on les scolarisait jusqu'à 18 ans, tenant compte de leur passé, du fait
Alors, qu'ils... Alors, pas, c'est pas légal. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de,
il y avait un texte.
Il n'y a pas une obligation.
Il y avait un texte.
Ouais,
mais apparemment, maintenant, on arrête à 17 ans. Donc, alors, c'était pour les primo-arrivants. Alors, pour ceux qui n'ont pas de papier, effectivement, il y a peut-être d'autres... Enfin, bref, en tout cas, on vient d'entendre ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'à 17 ans, c'est compliqué.
Quoi. Oui, c'est très compliqué. Et donc, il y a un certain nombre de jeunes qui ne sont pas scolarisés. Effectivement, l'apprentissage leur est toujours ouvert, en sachant que certainement que l'effet pervers de l'apprentissage, ça a été aussi permettre la réduction du nombre de postes de places en CAP dans l'éducation nationale.
Oui.
Donc c'est toujours la théorie des vases communicants, c'est-à-dire que quand on ouvre quelque part, ça ferme ailleurs.
Et
le problème, c'est que les jeunes qui sont mineurs isolés en apprentissage et qui sont bloqués par l'absence de régularisation à 18 ans, vont quitter l'apprentissage sans
le diplôme.
Sans le diplôme.
Et quelle est la réaction des maîtres d'apprentissage des entreprises?
Ah ben c'est toujours très compliqué.
C'est
compliqué.
Ouais.
Oui, voilà. Donc, en fait, c'est vrai que nous, on avait tendance à privilégier la voie éducation nationale parce qu'on se disait, si le jeune n'a pas de papier à 18 ans, au moins, il peut poursuivre et aller jusqu'au bout de sa formation.
Oui, parce que l'éducation nationale n'est pas censée vérifier la situation civile
administrative,
des gamins.
Non.
Ouais. C'est pas leur rôle. On ne vérifie jamais ça.
Oui, on peut avoir des diplômes sans papier, en fait.
C'est ça.
Mais pas en apprentissage. Enfin, c'est pratique. Enfin. Disons que si, c'est possible dans certains centres de formation, mais il y a des centres de formation qui n'acceptent pas des jeunes qui n'ont pas de papier. Et donc, forcément, par exemple, le centre de formation des apprentis de Chalon refuse systématiquement, interrompt, radie, en fait, les jeunes qui,
qui
n'ont pas de titre de séjour ou de récépissé.
Qui n'ont pas de titre de séjour. D'accord.
Voilà, donc les maîtres d'apprentissage sont obligés d'interrompre l'apprentissage. Et effectivement, moi, j'ai été sollicitée deux fois il y a 2 mois, parce que le jeune apprenti n'avait pas de titre de séjour ni de droit au séjour sur le territoire français. Et donc les maîtres d'apprentissage qui souhaitaient quand même aider leurs jeunes, parce que vraiment c'est toujours déchirant.
Il y a eu des histoires dans les médias.
Et oui, bien sûr, il y a eu des grèves de la faim, des patrons qui se sont montés en association aussi, l'association Patron Solidaire, pour lutter contre cette difficulté-là. Mais malheureusement,
sauf que la loi n'évolue pas.
La loi n'évolue pas, puis les préfectures sont toujours très... Enfin, elles sont très dures. Souvent, le problème vient des documents d'état civil qui ne sont pas acceptés, authentifiés par la cellule d'études de fraude documentaire, et qui est donc gérée par la police aux frontières. Et très souvent, les documents donc sont jugés non recevables ou falsifiés. Parce qu'ils ont été produits dans des conditions qu'on connaît, dans les pays africains, l'état civil est encore très précaire. Donc c'est vrai que les papiers font aussi l'objet de...
Oui, d'une vérification.
Oui, mais aussi de...
Ah oui, de fraude,
sur place. Ils sont un peu fabriqués n'importe comment, quoi,
en même temps,
faut le dire. et donc font objet de fraude. Et ce qui fait que à 18 ans, très souvent, les obligations de quitter le territoire sont délivrées à cause de ces problèmes.
Et
de...
c'est là que les gamins disparaissent et qu'on les trouve plus, parce que quand ils arrivent à s'en sortir.
Alors pas toujours, parce que nous on les là et que justement on essaye de voilà de les maintenir vraiment dans le circuit. Bien que ça soit vraiment difficile, hein, parce qu'il y a quand même des jeunes qui,
compte
tenu aussi des délais, des tribunaux administratifs, parce qu'on fait des recours.
Vous faites des recours.
C'est très long, hein, tout est long en fait, et le recours administratif et ensuite le réexamen par la préfecture, parce que très souvent le juge administratif demande un réexamen de la situation, puisqu'on produit le jeune produit des nouveaux documents,
C'est un parcours du combattant.
C'est vraiment infini. Les procédures sont très longues et parfois, alors on se retrouve avec des jeunes qui ne font rien pendant 18 mois, 2 ans et qui, sans l'aide des associations, ne pourraient pas tenir, quoi.
On va faire une petite coupure musicale, si vous voulez bien.
Petite pause musicale avec Souchon.
C'est bien que rue de Belleville, rien n'est fait pour moi. Mais je suis dans une belle ville, c'est déjà ça. Si loin de mes antilopes, je marche tout bas. Marcher dans une ville d'Europe, c'est déjà ça. Oh, oh, oh. Et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh, oh. Rêver, c'est déjà ça, c'est déjà ça. Y a un sac de plastique vert au bout de mon bras. Dans mon sac vert, il y a de l'air. C'est déjà ça. Quand je danse en marchant dans ces jets là-bas, ça fait sourire les passants. C'est déjà ça. Oh, oh, oh. Et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh, oh. Rêver, c'est déjà ça. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Déjà ça. Déjà. Pour vouloir la belle musique, soudain mon soudain. Pour un air démocratique, on te casse les dents. Pour vouloir le monde parler, soudain mon soudain. Suite la parole échangée, on te casse les dents. Oh, 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 et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh, oh, rêver c'est déjà ça, c'est déjà ça. Je suis assis rue de Belleville au milieu d'une foule. Et là le temps est morphine. Je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh, oh, rêver c'est déjà ça, c'est déjà ça. Oh, 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 et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh, oh, rêver c'est déjà ça, c'est déjà ça.
Alain Souchon, c'est déjà ça. Marie-Claude Barrière au micro de Radio Bono de 1901.
Marie-Pierre, oui, moi
j'ai dit. Pardon,
c'est Marie-Claude.
C'est Marie-Claude Barrière.
Non, c'est Marie-Pierre.
Ah non, c'est Marie-Pierre Barrière.
Bon, c'est pas grave.
L'erreur, sur ces entrefaits.
L'erreur était sur le papier.
Bonjour à tout le monde. Donc, RESF, Réseau d'éducation sans frontières. Donc là, on a parlé des difficultés des jeunes et des tracasseries administratives. Enfin, la loi qui n'est pas...
Oui, à la fois administrative et scolaire, effectivement.
Mais on va peut-être aller sur une note un peu plus positive, puisque vous avez créé l'association EOL, qui veut dire...
Oui, c'est ça. Alors, en fait, il n'y a pas de... C'est pas un acronyme. EOL, on l'a baptisé EOL grâce... Enfin, à cause...
Du vent.
Du dieu du vent, c'est ouais. ça, parce qu'on aimerait bien que le bon vent souffle dans les voiles de nos jeunes. Donc, en fait, effectivement, à côté du RESF, qui va surtout se préoccuper de procédures administratives et juridiques et de scolarisation, on a cette association qui, en fait, accompagne plus spécifiquement les jeunes qui veulent faire des études supérieures. On a vu tout à l'heure que c'était difficile. Et donc, parmi les jeunes qui arrivent en France, certains ont un projet d'études longue et ont migré parce qu'il était impossible, en fait, dans leur pays d'origine de le réaliser.
Ceux-là, ils sont majeurs, alors ?
Non.
Pour la plupart, les étudiants.
Ah oui, en fait, il faut d'abord qu'ils obtiennent leur bac.
Oui. Ah oui, oui.
Ils sont mineurs.
D'accord, c'est leur projet.
Oui, voilà. Et donc, l'association EOL, qui couvre plusieurs territoires, en fait, pas seulement la Marne, mais aussi Rhône-Alpes, Grenoble, Lyon et Nantes. Il y a plusieurs antennes, en fait. A accompagné depuis sa création une quarantaine de jeunes, dont le projet est vraiment des études supérieures. Et qui sont aujourd'hui soit diplômés, parce qu'on a un certain nombre de on a des masters en droit, on a des BTS ou des licences pro dans l'industrie.
Ça veut dire EOL a pris le relais pour tout ce qui est hébergement.
Alors pas forcément, parce qu'il y a encore une fois dans certains départements les jeunes étaient pris en charge en contrat jeune majeur.
D'accord.
Mais par contre, nous, notre objectif, c'est vraiment l'aide à la scolarité, donc par le biais de soutien scolaire, par le biais d'accompagnement vraiment sur le discernement, sur l'orientation, par les contacts avec les écoles, avec les enseignants, et puis la mobilisation de familles amies, soit hébergeuses, soit simplement parrain.
Soutien aussi.
Voilà, un soutien un peu culturel aussi.
Oui, j'ai vu, c'était un accompagnement pédagogique, un accompagnement familial et un accompagnement.
C'est ça.
C'est les trois axes.
Et puis on fait des ateliers socioculturels, du théâtre, de la radio. Parler en public,
certains jeunes ne sont pas francophones en plus, pas quand ils sont arrivés.
Il y a un travail comme ça d'assurance à faire.
Et d'acculturation peut-être un peu.
Voilà, et donc là, par exemple, avant-hier, on a un jeune qui vient d'obtenir un master en informatique par alternance et qui nous a annoncé la bonne nouvelle. Il a terminé sa formation alors qu'il était parti d'ici, de Chalon, avec un CAP en service restauration, service hôtelier. Donc il a réussi à bifurquer et à aller jusqu'au bout de son projet, et pour nous ça c'est vraiment
belle réussite.
Voilà, alors ce qu'il faut dire, c'est que vraiment ces jeunes, enfin déjà on a besoin de tous ces jeunes, puisqu'on sait très bien que ne serait-ce que pour payer nos retraites faire tourner l'économie de ce pays, on a besoin de jeunes formés. C'est exactement le cas. Comme on l'a dit tout à l'heure, les patrons, les chefs d'entreprise sont vraiment satisfaits de les embaucher, parce que c'est un jeune volontaire qui sont à l'heure, qui bossent.
Voilà, qu'on a une persévérance,
connu quand même des épreuves et qui savent le prix de la formation. Donc ça c'est vraiment précieux. Et puis aussi l'état d'esprit dans lequel ils sont, la façon dont en fait ils ont été formés, éduqués au pays, dont ils regardent aussi un petit peu nos travers, d'occidentaux, ça peut aussi nous aider, nous guider, parce qu'on sait très bien que le sujet, il y a un gros sujet sur la transition écologique, sur des modes de vie un peu plus sobres, un peu plus économes. Donc, c'est vrai que s'ils ne se laissent pas gagner par notre matérialisme, ils ont aussi des leçons à nous donner.
C'est certain.
Et ça, c'est vraiment précieux hein, pour être au contact avec eux au quotidien, puisque moi-même, je suis hébergeuse. Je vois vraiment à quel point ça a complètement changé mon regard un peu sur la vie et celui de mes proches, de mes enfants, de ma famille. Parce que, effectivement, c'est vraiment une richesse. C'est une richesse de pouvoir être dans ce dialogue hein, entre les cultures.
C'est l'interculturalité.
Et quand ils arrivent en France, est-ce qu'ils sont eux-mêmes sensibilisés à ces problématiques environnementales?
Alors pas non évidemment.
C'est peut-être pas leur premier problème.
Non, pas.
J'imagine.
Ils ont besoin d'être formés eux aussi, hein, mais ouais. Je pense que c'est intéressant
déjà,
d'avoir.
Déjà c'est la survie. Donc je pense que la survie.
Mais c'est intéressant de leur ouvrir les yeux sur sur leur potentiel en fait parce que très souvent ils sont quand même dans des.
Ils sont ouverts. Ouais.
Oui, ils sont ouverts, mais ils se dévalorisent beaucoup forcément. Hein. Ils sont tellement marqués par leur parcours à la fois migratoire et administratif que c'est très compliqué. Donc
la difficulté, c'est de les rendre confiance en eux, c'est ça,
leur donner cette confiance en eux,
leur estime de soi qu'ils ont un peu perdu aussi.
Ouais. Alors, comme on arrive au terme de l'émission, je voudrais qu'on puisse parler de la fête de l'accueil, si vous pouvez nous en dire deux mots.
Alors, à la suite de la mobilisation du 28 mars, puisqu'on avait fait une manifestation devant l'hôtel de ville de Chalon pour dénoncer les OQTF qui s'abattent en pluie hein, sur les jeunes depuis la loi Retailleau, on a voulu cette fois-ci développer un aspect plus positif à travers une fête de l'accueil qu'on redise à ces jeunes qu'on a besoin d'eux et qu'on forme communauté autour d'eux. Quoi. Donc tous ceux qui le souhaitent sont invités à partager un pique-nique le 21 juin.
Et c'est où ?
Alors c'est au Jard Anglais entre midi et 16h avant la fête de la musique. Et donc chacun apporte sa spécialité, ses talents musicaux, sa lecture de texte. Enfin voilà, ça a été un grand partage, un peu tous azimuts, à la fois culinaire et
culturel,
artistique. Voilà. Pour célébrer l'accueil et ses valeurs, parce que nous, on ne se résout pas au durcissement de la société française et à sa fermeture. Je crois qu'on est nombreux, mais qu'on est la minorité silencieuse. Et donc, parfois, on se donne les moyens de réunir des personnes qui, contrairement à tous les trolls sur les réseaux sociaux qui mettent des commentaires très négatifs et prônent l'expulsion et l'exclusion, eh bien nous, on a envie,
c'est
au contraire...
Pas réfléchi. En plus, souvent, c'est des gens qui réfléchissent pas trop. Vous parliez aussi de la nécessité d'avoir une main d'œuvre, d'échanger entre cultures.
Oui,
je pense que si les gens réfléchissaient un peu, peut-être qu'ils n'auraient pas les mêmes valeurs. Mais bon, ça, c'est un autre problème.
Mais en tout cas, on invite toutes celles et ceux qui partagent notre envie d'hospitalité, d'accueil, à nous rejoindre sur cette manifestation, donc le 21 juin.
Au Jard Anglais de 12 à 16h. Donc ce sera noté avec le podcast sur le site.
En lien avec la cantine du 111.
Et puis tous ses partenaires. La cantine du 111, elle est toujours.
Et puis l'association ESOP, des hébergeurs solidaires, qui recrute aussi. Hein.
Bien, ben nous arrivons au terme.
Le contact peut-être avec RESS si pour les gens qui veulent.
Oui, il y a le site internet, je renvoie les gens sur le guide. Donc il y a aussi un téléphone, une adresse mail, mais je ne sais pas si on peut l'utiliser, resf.bar@gmail.com.
Alors ça c'est Reims, mais nous on a vraiment resf.chalon@gmail.com.
Voilà, bon, donc resfchalon@gmail.com. Eh bien, je vous remercie, Marie-Pierre Barrière, et puis bonne route, bon vent, et peut-être au 21 juin.
Merci à vous. Il y a une pétition aussi en ligne.
J'ai vu sur le site, qui est sur votre site. Bon, il suffit de taper RESF Chalon sur Internet et on tombe directement sur le site.
C'est ça. Merci.
Merci à vous.